Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, www.campuslille.com. Et comme chaque mercredi entre 16h et 16h30, vous retrouvez le magazine Campus Lille Info, un magazine qui vous tient au courant de l'actualité de cette université, de Lille Université Sciences et Technologies, et aussi bien au-delà, souvent, des dispositifs qui existent pour les étudiants, pour les personnels, pour les chercheurs, et puis d'une manière générale sur la recherche aussi parfois, avec des thèmes que vous pouvez retrouver tout au long de l'année, des sujets très différents, très variés, qui donnent une idée globale de ce qui se pratique dans nos universités de la région, on va dire ex-Nord-Pas-de-Calais, mais maintenant bien au-delà, bien sûr. Voilà, vous êtes donc sur Campus Lille Info. Et nous allons aborder le sujet aujourd'hui de la formation tout au long de la vie avec deux personnes qui nous ont rejoints. Tout d'abord, M. Pierre-Louis, qui est président du jury qui attribue le prix André Lebrun. Bonjour, M. Pierre-Louis.
Bonjour.
Donc, également avec vous, la lauréate de cette année, édition donc 2016, qui s'appelle Valérie Capon-Dehaut. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc, monsieur Pierre-Louis, ce prix a une dizaine d'années maintenant.
Tout à fait, 10 ans. Oui.
Et donc 10 ans de récompense.
Voilà, oui. Voilà.
À la fois de personnes, parfois de personnalités, mais surtout de projets de formation.
Oui, c'est ça. Oui. Des personnes qu'on a voulu distinguer. On a toujours beaucoup de candidats chaque année, hein, une dizaine, douzaine. C'est pas toujours facile de choisir, il faut bien le dire, mais effectivement des projets dedans que les personnes en formation ont réussi à mener à bien après un parcours intéressant et souvent méritoire. Voilà.
Donc ces postulants, enfin ces candidats à ce prix, ils se font connaître ou bien c'est vous qui allez les chercher ?
Non, ils se font connaître. C'est-à-dire qu'ils se font connaître par l'intermédiaire de leur composante d'origine. Mm-hmm. C'est qu'on écrit à un moment donné, au début d'année universitaire, on lance le concours et on écrit aux responsables des unités de formation de recherche pour leur dire, voilà, le concours existe, donnez-nous des candidats, nous essayons de récompenser celui qui, à nos yeux, est le plus méritant, le meilleur. Voilà,
voilà donc cette année, eh bien, c'est Mme Valérie Capon-Dehaut. Oui. Qui est donc la lauréate distinguée. Au départ, Madame Capon-Dehaut, vous êtes donc une salariée, employée du CHR, c'est ça ?
Oui, c'est bien ça. Mmh.
Donc de Lille. Et vous avez au départ un diplôme qui vous a permis d'entrer à ce poste, on va dire, que vous occupiez.
Oui, c'est ça. Mais j'ai simplement j'avais simplement le baccalauréat quand je suis rentrée au sein du CHRU de Lille.
Voilà, et quelques années après, un petit regret, hein, pour dire j'irai bien plus loin.
Oui, oui, j'avais un objectif professionnel depuis toujours. Et grâce au CHRU, j'ai eu l'opportunité de pouvoir financer cette reprise d'études. Et donc, j'ai foncé.
Mmh. Est-ce que beaucoup de personnes sont dans votre cas de reprendre des études après une période de vie active, une fonction, un poste particulier ?
Au sein du CHRU, j'en ai pas d'idée exacte, mais au centre de biologie et pathologie où je travaille à l'origine, on était 3 cette année.
Et donc ce désir de reprendre des études, il y a longtemps que vous l'aviez, c'était une façon pour vous de compléter votre formation, puis aussi d'évoluer dans votre pratique ?
Oui, c'est ça. J'avais eu pour objectif professionnel de devenir technicienne de laboratoire. Et bon, les études ne sont pas passées à l'origine comme je l'espérais. Donc, je suis rentrée directement dans la vie active, mais toujours avec ce regret de ne pas pouvoir atteindre cet objectif. Donc là, comme j'ai eu cette opportunité, j'étais ravie de pouvoir retourner à l'école et étudier pour enfin aboutir.
Donc vous avez demandé un congé formation, c'est ça ?
J'ai fait une demande de congé de formation. Donc il faut remplir un formulaire, passer devant un jury aussi. Le dossier est évalué et ensuite on a l'accord de financement. Voilà, on peut démarrer.
Et à partir du moment où vous démarrez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous épaule un peu ?
Mais surtout les enseignants de l'IUT qui sont là et qui sont à notre écoute. Et après, c'est surtout la famille qui compte dans ces moments-là.
Mmh. Alors, donc, M. Pierre-Louis, on entend, on va continuer de présenter ce projet de Mme Capon-Dehaut. Est-ce que ce parcours-là, c'est quelque chose qui est assez commun dans les parcours que vous êtes amené à évaluer?
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on trouve, il y a toute une série de parcours différents. Hein. Mais l'idée du but qu'on avait à un moment donné et qu'on voudrait atteindre, parce qu'on n'a pas réussi au départ à l'atteindre, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement, effectivement. Des gens sont sortis d'études pour des tas de raisons, hein, quelquefois des problèmes financiers, des problèmes de famille. Ils ont toujours ça dans un coin de leur tête, ils ont toujours l'idée qu'il faudra un jour que... Et puis l'opportunité se présente, ils la créent aussi, il faut bien le dire, parce qu'il faut avoir du courage pour se lancer. Et une fois que c'est parti... En général, ça se passe bien parce qu'ils le veulent vraiment. Hein.
Donc là, on est dans le cas de quelqu'un qui reprend une formation pour approfondir ses compétences, ses connaissances. Il y a aussi parfois des personnes qui reprennent une formation pour changer de cap.
Ah, tout à fait. Oui. C'est-à-dire qu'on a plusieurs types de personnes en formation continue. La deuxième dont vous parlez, effectivement, est assez fréquente aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des gens qui, quelquefois, ont atteint un niveau déjà élevé au départ, mais qui, pour des tas de raisons, ne se plaisent plus dans le métier qu'ils font ou ont envie de faire autre chose. Et du coup, tentent l'aventure de la formation, mais ça n'est plus un problème d'atteindre à nouveau notre niveau, c'est une autre compétence qu'on veut, quoi.
D'accord. Ouais. Alors, c'est vrai qu'avec, on va dire... voilà les téléphones qui s'y mettent. On va y arriver. Prenez votre temps, monsieur. Donc, Pierre-Louis, ça va aller? Voilà, vous êtes en direct, vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, bien sûr. Donc, je disais que ces formations-là, effectivement, elles sont pas forcément si courantes que ça. Est-ce qu'on peut encourager les gens à davantage participer, ou est-ce que c'est très limité en termes de possibilités?
Oh, je crois qu'il y a encore des possibilités. C'est-à-dire qu'on peut encourager les personnes à faire un bilan de compétences déjà, hein, puis ensuite à aller voir les conseillers en formation continue pour essayer de voir quel est le meilleur moyen pour atteindre le but qu'on s'est fixé. Mais il reste encore des possibilités. Je pense qu'on est loin d'atteindre le maximum de candidats qui peuvent être admis. Mmh. D'ailleurs, le projet de formation tout au long de la vie est quand même l'un des projets de l'université aussi. Mmh. Hein, donc,
Alors, on parlait tout à l'heure de gens qui réorientent parcours. Oui. C'est vrai qu'avec, on va dire, l'allongement de la durée du travail, hein, maintenant on travaille jusqu'à 65, bientôt, voire plus, on ne sait pas trop où on va, là. Oui. Ça va devenir très important de pouvoir changer de branche, de voie. Je suppose qu'il y a des métiers qu'on ne peut pas faire ad aeternam, quoi.
Oui, ça c'est probable. C'est probable et je crois que... On va sans doute voir se développer un centre de formation de gens qui, à un moment donné, devront changer. Pas forcément pour réatteindre un projet qu'ils avaient, mais parce que leur métier a évolué. Bon, cette année, on avait un candidat, par exemple, qui était un entrepreneur, qui avait fondé, à un moment donné, donc une formation technique, qui avait fondé son entreprise, mais... Probablement, l'expérience n'existant pas, il a dû arrêter. Il est venu en formation sur des problèmes de management. Et ensuite, il va pouvoir reprendre éventuellement son projet. Quoi. Là, il y a bien une volonté de changer parce que l'emploi sur les qualités ne lui convenait plus.
Alors, en l'occurrence, quand on est dans une entreprise publique, si on peut dire entreprise, un service public tout au moins, ce système est quand même assez connu. Quand on est dans le privé ou qu'on est entrepreneur, pourquoi pas, comment ça fonctionne? Parce que j'imagine que dans le public, on continue plus ou moins d'être financé.
Oui, c'est variable, ça dépend les plans de formation. Enfin, dans le privé, ça dépend les privés. Cette année, par exemple, on avait quelqu'un qui était à la caisse d'épargne, qui à un moment donné continue à faire des tas de formations au niveau de la caisse d'épargne elle-même, puis ensuite a voulu obtenir un titre officiel délivré par l'université, et elle a pu se faire financer par la caisse d'épargne, quoi, vous voyez. Mm-hmm. Donc ça, c'est le privé, mais ça marche quand même, quoi.
D'accord. Ouais. Et pour quelqu'un qui est entrepreneur, est-ce qu'il peut aussi se former, pourquoi pas, et avoir une certaine forme de prise en charge, sinon de reconnaissance?
Ah, alors là, j'avoue que je ne sais pas bien. Celui dont je parlais redevenu employé, donc avait le droit à la formation en partie financée. Oui.
D'accord. Ouais. Donc, on a bien compris, hein, le prix André Lebrun n'est pas là pour mettre en place ces formations.
Non,
ou de,
sûr,
voilà,
non,
et non. Ça se fait en interne ou voilà, avec voilà. Les organismes de formation. Je pense d'ailleurs savoir que l'Université Santé et Technologie Lille 1 est depuis très longtemps sur la formation continue.
Tout à fait.
Et
tout
j'allais
fait,
dire presque fait. Précurseur.
Tout à fait. Oui, je pense qu'on peut le dire, hein, en particulier pourquoi on a appelé le prix André Lebrun, c'est parce qu'André Lebrun, qui était professeur à l'université, a été l'un des pionniers justement de cette renaissance de la formation continue, de la promotion sociale. Ça a commencé dans les années 70, hein, donc après 68, les nouveaux statuts, la voiture a commencé à ce moment-là. Quoi.
Et d'ailleurs, je pense que le financement de la formation continue en France est relativement conséquent.
Ah oui. C'est qu'à un moment donné, dans la mesure où la formation continue est passée sur les régions se sont beaucoup investies sur la question. Il faut dire aussi que le problème de l'emploi a entraîné la nécessité de former un certain nombre de personnes. Hein. Mais les régions se sont beaucoup investies, et les universités aussi. Hein. Alors à Lille 1, il y a eu en particulier la composante QEP, qui s'est beaucoup intéressée à ça et qui a essayé d'inventer de nouvelles méthodes justement pour aborder la formation des personnes qui souhaitent revenir en formation.
Voilà. Donc, vous écoutez Radio Campus, 106.fm, www.campusil.com. Nous sommes toujours avec M. Pierre-Louis, qui est président du jury du prix André Lebrun, donc en l'occurrence 2016, et on l'a dit, un prix qui a 10 ans maintenant, et Mme Valérie Capon-Dehaut, donc, qui est lauréate, donc qui a été distinguée. Donc, Mme Capon-Dehaut, quand on a ce projet de reprendre des études, quels sont les obstacles et comment on les surmonte?
Les obstacles sont assez nombreux, puisqu'il faut déjà avoir le courage de se lancer. Ensuite, une fois qu'on est on retourne à l'université, il y a aussi la différence d'âge avec les autres étudiants qui sont en formation initiale. Donc il y a une question d'intégration aussi qui doit se faire pour pouvoir être serein et faire ses études de manière la plus sereine possible. Après moi c'est un peu particulier, il y a aussi la vie familiale qui a été un peu chamboulée, hein, donc pas évident non plus d'allier les deux, hein, la vie de famille et les études. Bon, il faut savoir garder un peu du temps pour soi, mais c'est pas forcément évident quand on est étudiant.
Au-delà de cela, je pense que beaucoup de femmes qui ont des enfants ont les mêmes difficultés, hein, que vous venez de souligner, et qu'a priori vous êtes l'exemple même de ce qui est possible.
Oui, bon, après, de toute façon, c'est une question d'organisation, j'ai envie de dire. Hein. Et puis, j'ai repris des études, mais cette épreuve, enfin, si on peut appeler ça une épreuve, enfin, je ne l'ai pas vécue toute seule. Hein. J'étais avec mon mari, qui m'a beaucoup soutenue pendant ces 2 années, et même supportée, on peut dire, puisqu'il y a des moments où, en période d'examen, on est un peu plus à cran, mais... voilà, si je peux le dire, que si je n'avais pas eu mon mari à mes côtés, je n'aurais jamais pu réussir ces 2 années de DUT.
Mmh. c'est peut-être un peu un problème, hein, pour, d'une manière générale, il n'y a pas que des familles homogènes, on va dire, et beaucoup de personnes se sentent peut-être en difficulté par rapport à ces dispositifs, Monsieur Pierre-Louis.
Oui, c'est possible, hein. C'est vrai que les exemples que nous avons sont des exemples qui, en général, se sont bien passés.
Sûr, oui.
Voilà. Et donc, les candidats que nous avons pu voir et qui ont déposé un dossier, en général, ont eu l'accord de leur famille, etc. Encore qu'on a des exemples aussi de femmes divorcées qui ont réussi, mais souvent leurs enfants étaient un peu plus âgés, quoi. Mm-hmm. C'est ça.
Mais comme on a dit que la formation pouvait avoir lieu tout au long de la vie, ça peut aussi être une idée qu'à un moment donné, quelqu'un, je veux dire, qui travaille à mi-temps, mm-hmm, ou qui veut un peu arrêter, ou qui prend une... Bon, en l'occurrence, pour la retraite, ce n'est pas facile. Hein. Là, ce n'est pas prévu dans ces formations. Hein.
Non.
C'est bien pour retravailler après, on est d'accord sur ce
principe. Oui, a priori, oui.
Voilà. Donc, est-ce que, Mme Capondeau, cette formation que vous avez donc intégrée, qui vous a diplômé à l'issue, est-ce que ça vous a valorisé, à la fois pour vous-même, pour votre entourage, voire même pour l'entreprise, vos collègues, etc.?
Pour moi, c'est sûr qu'une fois que j'aurai validé ce DUT, parce que c'est pas encore tout à fait...
Ça va venir.
Oui, c'est bientôt la fin, mais pas encore tout à fait. Donc, une fois que j'aurai validé ce DUT, c'est sûr que ça sera une grande victoire pour moi, une grande fierté, puisque à l'origine, je voulais faire... Ça, c'était mon objectif professionnel, mais maintenant, c'est aussi... ça va être une victoire pour toute la famille. Hein. On va avoir du changement obligatoirement. Et je sais que mon mari est fier de moi et il m'a beaucoup encouragée. Et dans ma famille aussi, je pense qu'on est content de mon parcours, puisque quand j'ai repris le DUT, j'avais pour ambition, en plus de valider ce DUT, de bien le réussir. Je ne voulais pas avoir juste la moyenne, je voulais vraiment bien réussir. Et là, pour l'instant, c'est le cas, quoi. J'ai eu des bons résultats et c'est valorisant, c'est sûr.
Donc voilà, vous allez peut-être changer un petit peu de vie par rapport à des responsabilités nouvelles, hein, par rapport à des fonctions peut-être plus intéressantes, enfin du moins vous le jugerez, hein, ça ne peut pas anticiper. Et puis aussi cette valorisation par rapport à l'entourage. J'allais dire, est-ce que vous pensez un jour recommencer à vous former pour aller encore plus loin?
J'en parlais justement tout à l'heure à Monsieur Louis. J'ai eu le plaisir de voir sur mon bulletin provisoire que les professeurs me donnent un avis très favorable pour l'école d'ingénieur. Donc voilà, à l'heure actuelle, je pense que je vais d'abord travailler un peu sur mon poste de technicienne de laboratoire, parce que c'était mon objectif professionnel. C'est ce que je voulais faire. J'avais pas, jusqu'à aujourd'hui, l'ambition d'aller plus loin. Et je vais laisser aussi un peu mon mari se reposer. mais je garde ça dans un coin de ma tête.
Alors, Monsieur Permu, on voit cette réflexion aussi, hein, derrière ce projet. Sans doute, ça contribue aussi à cette remise de prix, à cette distinction. On peut imaginer que les gens qui ont des projets de ce type-là puissent en tirer aussi profit financier. Comment c'est valorisé aussi dans l'entreprise ?
Dans l'entreprise, je crois que le fait d'avoir un titre qui permet d'obtenir une fonction ou un emploi, en général, est valorisé. Là, je crois que ça va être le cas pour Virginie, justement. Donc, mm-hmm. Alors, c'est pas toujours. Hein. Quelquefois, les gens font une formation, obtiennent un titre, mais ne peuvent pas le valoriser dans l'entreprise de départ. Voilà. Donc, c'est pas toujours simple. Quoi.
Bon. Faut peut-être demander au départ ou pas ? Savoir les conditions.
Ah ben c'est plus facile quand on s'est mis d'accord avec l'employeur au départ, ça c'est clair. Ouais, c'est clair.
Alors, ouais. Au-delà de ça, on pressent là, par rapport à cet appel du pied à aller plus loin dans les études de Valérie. Peut-être aussi une façon de compenser dans certains domaines le manque de personnes qualifiées, je pense des ingénieurs dans des domaines très particuliers qui n'auraient pas eu cette formation initiale et qui manqueraient en France d'une manière globale. Peut-être l'occasion d'inciter les meilleurs d'entre eux, enfin ceux qui ont été désignés comme tels, d'aller plus loin et de compenser ce déficit.
Ah oui, je crois qu'il y a une nécessité de formation évidente. Et donc, si un certain nombre de personnes se sentent l'envie, la volonté, je crois qu'ils n'hésitent pas, quoi. Qu'ils n'hésitent pas, voilà. Qu'ils aillent voir un conseiller en formation, qu'ils fassent un bilan de compétences. Et ensuite, si le désir est toujours là, qu'ils y aillent.
Donc, ce prix André Lebrun 2016, exactement, pratiquement, en quoi il consiste et il donne droit à quoi?
Alors, il est doté d'un chèque de 1600 euros, c'est ça, je crois. Hein, voilà. Alors, il faut savoir qu'au départ, effectivement, l'ASA, donc l'Association des anciens de l'Université de Lille, a reçu un don du professeur Lebrun, justement, voilà, un don très important. Et ce sont les revenus de ce don qui ont permis de délivrer le titre.
C'est pratiquement une fondation, voilà. Quoi.
Oui, c'est ce qu'il voulait faire au départ. D'accord. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Ouais. Mais en tout cas, le prix a été fait pour à la fois mettre en valeur des candidats, mais aussi pour rendre un peu hommage à André Lebrun pour tout ce qu'il a fait et puis ce qu'il a donné aussi.
Voilà. Bon, ouais. On imagine, Valérie Capondeau, que bon, ça peut aussi être un petit coup de pouce sympathique.
Oui, c'est sûr.
Par les temps qui courent. Et est-ce que vous avez perçu du temps de vos études récentes, là, pendant cette période-là, économiquement, des difficultés que vous n'aviez pas quand vous travailliez?
Oui et non, c'est un peu compliqué puisqu'en fait, avant d'entrer en DUT, j'étais employée au CHR, mais de nuit. Donc normalement, quand on reprend une formation, on n'a pas de perte de salaire, mais en tant que travailleur de nuit, forcément, je perdais ma prime de nuit.
Mais vous gagnez peut-être en santé.
Oui, peut-être. Et le souci qui s'est posé aussi, c'est que quand j'ai repris mes études, j'avais un petit bébé à faire garder, et donc des frais de crèche qui se sont ajoutés. Donc ça n'a pas été évident, mais bon, c'était largement tenable quand même.
Donc, Pierre-Louis, tout le monde n'a pas ce prix et cette aide-là.
Non,
hein.
Non.
Bon, elle sert d'exemple, sinon de modèle.
Voilà. Enfin, c'est qu'on on se pose quelquefois la question, on a toujours choisi de garder le prix comme étant effectivement attribué à une personne. On a par ailleurs un dispositif, mais qui est un dispositif d'aide, mais apporté à des jeunes qui commencent la formation. Et donc, depuis deux ans, on a mis en place un système où là, il y a une somme d'argent qui peut être éventuellement divisée entre plusieurs personnes, quoi, pour les aider à démarrer cette fois-là. Mmh. Donc, c'est plus le même système. Le prix Lebrun, c'était vraiment mettre en valeur à la fois des candidats et puis tout le dispositif.
Donc, on a bien compris que ce prix était porté par l'ASA, hein, l'association.
Tout à fait, oui,
on
oui.
peut rappeler.
L'association de solidarité des anciens universités de Lille.
Voilà. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il puisse se créer une association des lauréats des prix André Lebrun?
Ça dépend d'eux, hein, pourquoi pas.
Mais voilà, la balle est dans votre camp,
voilà.
Valérie Capondeau.
Pourquoi pas?
Voilà. Donc. Là, on a bien compris, vous êtes à la fin de votre cursus de formation. À la rentrée, vous allez réintégrer votre lieu de travail.
Oui.
Et on parlait de travail de nuit, ça va reprendre ou pas?
Non, à la fin du DUT, enfin pour pouvoir valider le DUT, on doit faire une période de stage de 10 semaines. Et je suis actuellement justement en période de stage au CHRU, mais forcément dans un autre service qui correspond au métier que je peux exercer une fois que j'aurai validé mon DUT. Donc je suis actuellement au laboratoire de cytogénétique prénatale. Et on m'a déjà proposé un poste à la fin du DUT, si ça m'intéressait. Et comme le stage se passe à merveille et que c'est un service qui m'intéresse vraiment beaucoup, j'ai dit oui. Donc voilà.
Alors, ce stage-là, Est-ce que ça a été plus facile pour vous qui étiez déjà dans le lieu de l'obtenir qu'un étudiant qui fait cette formation et qui cherche un stage ?
Plus facile, oui, je pense. Hein. Mais je sais que au sein du CHRU, comme c'est un hôpital universitaire, ils sont pour la formation, ils prennent beaucoup de stagiaires. D'ailleurs, dans ma promotion, il y a plusieurs stagiaires qui sont actuellement au centre de biologie en stage.
Voilà, donc on a bien compris que cette formation va pas bouleverser, mais changer votre vie.
Oui.
Positivement.
Oui, positivement, c'est sûr.
Voilà. Mais écoutez, on vous souhaite bon vent. Et puis, si vous voulez revenir un jour, parler de ce que ça vous a réellement apporté, ce que ça a changé dans votre vie. Et puis aussi, donner des conseils. On n'a pas eu trop le temps aux personnes qui voudraient profiter de ce dispositif. N'hésitez pas à revenir.
Avec plaisir.
Merci donc Valérie Capon-Dehaut. Merci Pierre-Louis. Très bonne journée.
Bonne journée.